Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour la dernière fois de la saison pour moi, pour Culture Média. Mais je vous rassure, l'émission sera là lundi. Avec qui aux commandes? Restez avec nous, il sera là en deuxième heure. On va parler cinéma avec Olivier Benkemoun et gastronomie avec Laurent Mariotte. Oui, ça vous donne un indice. Il sera beaucoup question d'édition ce matin. Vous retrouverez évidemment Bruno Donnet pour ses télescopages, le portrait d'avant la célébrité, le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, mais aussi Marc-Antoine Lebray et ses stories. Et dans quelques instants, le journal des médias et les audiences télé d'hier soir avec Louise Bernard. Nous sommes ensemble, ça ne change pas, pour deux heures en direct. Évidemment, vous pourrez podcaster l'émission ou la partie de l'émission qui vous manque sur europe1.fr. Notre infomédia braque le projecteur sur une profession qui est en train de bousculer le monde de l'édition et par là des fictions qu'on voit sur nos écrans, les agents littéraires. En 5 ans, le nombre d'agents a doublé. Ils sont devenus les nouveaux intermédiaires entre les auteurs et les productions, de plus en plus accros à de bonnes histoires pour les chaînes et les plateformes. Si les agents de cinéma touchent 10% du cachet des comédiens, combien pour les agents littéraires? Réponse dans quelques minutes. Nos invités ensuite, la comédienne Rachel Suissa, qui réalise son premier film pour Netflix, Les Liaisons Dangereuses, adaptation du chef-d'œuvre de Choderlos de Laclos, paru en 1782. C'est pour faire le lien avec le sujet précédent, c'est libre de droit. Mais l'histoire a été dépoussiérée, comme on dit, à l'heure des réseaux sociaux. La place dans l'aristocratie ne se joue plus à la cour de Versailles, mais se mesure en nombre de followers. Enfin, le dessinateur et scénariste Christophe Blain, avec qui on va revenir sur la BD Phénomène, la sienne, la plus vendue de l'année. Ça s'appelle Le Monde sans fin. C'est co-signé par Jean-Marc Jancovici. Déjà 320 000 exemplaires vendus et c'est pas fini. Il est question du réchauffement climatique. C'est absolument passionnant car ça brouille toutes les cartes des écolos purs et durs aux réacs climato-sceptiques. Il les renvoie dos à dos. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias.
Une mauvaise nouvelle pour les fans de François Bunel ou ceux de la Grande Librairie, ou les deux d'ailleurs. Le résultat de la motion de défiance envers le directeur de l'information de France Télé, les nouveautés de la chaîne L'Équipe, celle de Public Sénat, et puis la nouvelle version payante d'un réseau social très populaire chez les ados.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé, le trio de tête.
Ils ont regardé TF1, on a retrouvé la 7e compagnie, 4 560 000 téléspectateurs. Oui, je crois, oui. Comme la semaine dernière, il y avait déjà la 7e compagnie à l'antenne et ça avait aussi très bien marché. Ça marche encore mieux cette semaine, 24,2% de part d'audience. Deuxième, France 3 avec la série La Stagiaire, des rediffusions et qui marche quand même plutôt bien, 3 170 000 téléspectateurs, 16,8% de part d'audience. Et puis troisième, le documentaire de Guy Lagache sur France 2 qui a suivi Emmanuel Macron, un président, l'Europe et la guerre. C'est un bon score pour cette case. 2 210 000 téléspectateurs, 12,2% de part d'audience.
Europe 1 Culture Média.
Et on débute ce journal avec cette information. François Bunel arrête la Grande Librairie.
Oui, il ne présentera plus l'émission de France 5. Une page qui se tourne après 14 ans à la tête du programme. Information du journal Le Parisien. Il explique que c'est sa décision, qu'il a envie de nouveaux défis. Faire des films de cinéma, des séries, écrire et tourner des documentaires, produire des nouveaux talents. Il confie et travaille notamment sur une mini-fiction sur un écrivain du XXe siècle. Ce sera pour France Télévisions. Et il ajoute « J'adore mon métier, mais j'aime encore plus l'aventure et relancer les dés. J'ai envie de me renouveler, de me réinventer. » Alors, il va quand même rester producteur de la Grande Librairie et il continuera de s'impliquer sur l'émission, mais en régie. Son ou sa successeur n'a pas encore été dévoilé. Sa dernière émission, ce sera donc mercredi prochain et ce sera aussi la 500e.
Dans l'actualité des médias également, les rédactions nationales de France Télévisions votent une motion de défiance contre leur directeur de l'information.
Faites-vous confiance à Laurent Guimier pour diriger l'information de France Télévisions? Voilà la question qui était posée. Eh bien, la réponse est non à une très forte majorité, 83% chez France 2 et France 3, et plus encore à la rédaction web de France Info, 93%. En revanche, chez France Info, la télé, la confiance l'a emporté à 53%, mais ça ne suffit pas à contrebalancer le reste des votes. La motion de défiance a donc été adoptée hier. Depuis quelques mois, les relations entre les rédactions et Laurent Guimier sont tendues. L'annonce du non-renouvellement de 5 CDD la semaine dernière a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et puis ça, et puis la volonté de rediffuser des sujets cet été pour faire des économies. Face à la colère des rédactions, Laurent Guimier avait rétropédalé, mais ça n'a pas suffi. La motion a donc même été votée. Reste à savoir ce que fera désormais la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Elle ne s'est pas encore exprimée, elle réserve sa prise de parole aux équipes en interne.
La chaîne L'Équipe a présenté hier les nouveautés de sa rentrée.
Oui, côté grand temps fort de la rentrée, on peut citer la diffusion du volleyball, les championnats du monde du 26 août au 11 septembre, l'équipe de France est championne olympique en titre, donc forcément il y a beaucoup d'attentes. La chaîne diffusera toutes les rencontres des Bleus et puis la finale qu'on espère tricolore. Autre grand temps fort dans un tout autre genre, hein, l'équipe va proposer pour la première fois gratuitement un documentaire sorti sur Netflix, The Last Dance. Il raconte l'histoire de la saison de basket 97-98, celle des Chicago Bulls et de Michael Jordan, leur dernière saison tous ensemble quand ils ont remporté le titre. 10 heures de documentaire répartis en 5 soirées, c'est un véritable événement selon le directeur de la chaîne, Jérôme Saporito.
Ces documentaires, qui est une production américaine, fait partie pour tous les spécialistes des plus grands documentaires de l'histoire du sport qui aient jamais été produits, parce qu'on y découvre un nombre d'images inédites incroyables, qu'on est plongé dans une histoire autour de Michael Jordan, qui est un sportif iconique, et que, en fait, on a toujours eu l'impression que cette équipe, elle gagnait dans la facilité, et là, on va découvrir les coulisses de cette équipe, où tout n'a pas été aussi rose qu'on veut bien l'imaginer ou dans nos souvenirs.
Et du côté de ces émissions, pas de grand changement. L'équipe de Greg et l'équipe du soir seront de retour à la rentrée, avec tout de même quelques nouveaux visages dans les deux programmes. Côté droit du sport, la chaîne a sécurisé ceux du biathlon jusqu'en 2026, sport qui lui vaut de très très belles audiences. Ceux du ski alpin aussi jusqu'en 2026. Et puis cet été, la chaîne L'Équipe va aussi faire des tests, proposer du poker et une compétition avec tous les sports qui ne sont pas présents aux Jeux Olympiques, qui s'appelle les World Games. Ce sont des paris pour la chaîne qui aime tenter de nouvelles propositions, tenter de proposer des nouvelles choses à ses téléspectateurs.
On a cette chance-là, on peut se tromper à la chaîne L'Équipe. On a cette liberté-là parce qu'on est plus petit, parce qu'on est une chaîne de complément par rapport à des grosses chaînes où le droit à l'erreur est plus difficile parce que les enjeux sont plus forts. Nous, on a cette chance-là d'être encore à une taille où, voilà, si on se trompe un jour, eh ben on réessaye, on retente. Il faut qu'on en use et abuse. C'est une des clés de notre succès. Si on y arrive, c'est parce qu'à un moment donné, on a testé. Parfois, on se trompera, mais parfois, on réussira. Le biathlon, c'était un pari. Au départ, il y a 5-6 ans, ça n'avait jamais été diffusé en clair. C'était un vrai pari. On voit le succès que ça a quelques années après, où c'est plus du million de téléspectateurs à chaque course. Ben là, c'est la même idée.
Jérôme Saporito, directeur de la chaîne L'Équipe.
Là aussi, il est question de nouveautés. Public Sénat va lancer 5 nouvelles émissions à la rentrée.
Oui, en plus des nouveaux programmes qui étaient lancés l'an dernier, d'après le Figaro. Au programme, donc, pour cette rentrée, une hebdomadaire politique chaque week-end, une mensuelle qui traitera du rapport des jeunes à la politique, une série d'entretiens aussi avec de grands acteurs économiques, un programme de décryptage sport et société, et puis enfin, une émission littéraire tous les vendredis et samedis animée par Denis Oliven, l'actuel co-gérant et directeur général de Libération.
Actualité série ou plutôt fin de série, il n'y aura pas de saison 3 de la série OVNI.
Oui, Canal+ ne la renouvelle pas faute d'audience suffisante, c'est une information de Télérama. La saison 2 diffusée en février sera donc la dernière, mais elle n'a pas été tournée, mais elle a été tournée sans savoir qu'elle n'aurait pas de suite. Donc il n'y a pas de vraie fin à cette série. Alors pour rappel, c'est une comédie avec Melville Poupeau sur des scientifiques qui tentent de prouver l'existence de traces de vie extraterrestre. Les équipes de la série n'ont pas de rancœur vis-à-vis de Canal+, elles confient avoir conscience qu'on est dans un moment de concurrence féroce entre les diffuseurs. C'est le jeu de la télé. Voilà ce qu'a dit l'un des co-scénaristes et co-créateurs de la série à Télérama.
Et on termine avec Snapchat qui propose désormais une version payante. Le réseau social très prisé des jeunes lance un abonnement baptisé Snapchat Plus.
Oui, pour 4$ par mois, il est désormais possible d'avoir accès à nouvelles fonctionnalités comme savoir qui a regardé plusieurs fois le contenu que vous avez posté, les petits curieux. Ce sont les stories ou bien des outils pour personnaliser votre profil. Cette nouvelle fonction payante est proposée dans une dizaine de pays, dont la France. Pas question, en revanche, pour l'application de supprimer la publicité, version payante ou non. C'est là-dessus que repose tout son modèle économique. Alors, ce nouvel abonnement, ça trahit surtout les difficultés financières du réseau social qui génère un gros chiffre d'affaires, plus de 4 milliards de dollars en 2021, mais qui ne dégage pas de bénéfices nets.
Merci beaucoup, Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. Et puis, je vous fais ma meilleure imitation. C'était le petit chat que vous aviez dans la gorge.
Je voudrais juste dire un mot pour Alexis Patrick qui reprend tous les jours les infos médias pour le site internet europe1.fr. C'est son dernier jour aujourd'hui. Je le remercie pour son travail, toujours dans la bonne humeur. En plus.
Merci beaucoup et On se reverra la saison prochaine, Louise, pour un nouveau journal des médias, mais vous serez là lundi.
Avec mon chat dans la gorge, peut-être.
Dans un instant, sur Europe 1,
belle été,
notre
Philippe.
Info média du jour. Merci, Louise. Enquête sur le métier d'agent littéraire qui bouscule le monde de l'édition. Ces agents littéraires sont devenus les nouveaux intermédiaires entre les auteurs et les producteurs de télé et des plateformes. Comment se passent les négociations? Question qu'on va poser à nos deux invités, l'agent littéraire Olivia de Dieuleveux et la journaliste du Figaro Claudia Cohen, qui a consacré à ce sujet une enquête très intéressante.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
Quand les agents littéraires bousculent le monde de l'édition, longtemps resté une tradition anglo-saxonne, le métier se développe à grande vitesse en France. En 5 ans, le nombre de professionnels recensés au sein de l'Alliance des agents littéraires a tout simplement doublé. Aux agents de décrocher les meilleurs contrats pour leurs auteurs et parmi eux, les droits d'adaptation audiovisuelle dont le marché s'est incroyablement étendu avec l'arrivée des plateformes en plus du cinéma et de la télévision. Si vous avez été fan de la série 10% consacrée à la vie des agents de cinéma, il faut lire l'enquête publiée cette semaine dans le Figaro, enquête qui concerne leurs confrères du milieu littéraire. Ces derniers tentent de se faire une place dans le secteur de l'édition qui ne voit pas toujours d'un très bon œil le développement de ce nouveau métier. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Et surtout, à qui l'agent va-t-il prendre ses pourcentages? À l'auteur ou à l'éditeur qui parfois ne veut rien savoir? Question qu'on va poser à nos invités. Bonjour Claudia Cohen.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Figaro, vous êtes l'auteur de cette enquête que je viens de citer. Olivia de Dieuleveux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agent littéraire au sein d'autre entreprise qui s'appelle Dieuleveux Agency. Je vais commencer avec vous, Olivia de Dieuleveux, puisque c'est votre métier. D'abord, comment vous le définiriez? C'est quoi un agent littéraire? Que fait-il?
Ce serait un trait d'union, en fait, entre l'auteur et l'éditeur. Quelqu'un qui est vraiment à 100% du côté de l'auteur, qui représente ses intérêts dans un monde qui est en pleine mutation. Et les intérêts audiovisuels, les droits étrangers, les droits littéraires.
Qu'ajoute l'auteur, puisqu'on pouvait très très bien vivre sans ça, puisqu'on dit que c'est une profession qui est très récente en France. Je raconte ma petite histoire, j'écris 14 livres, j'ai jamais eu d'agent, j'ai trouvé que j'avais des très bonnes relations avec l'éditeur. Qu'apportez-vous qui n'existait pas auparavant? Pas vous-même, mais toute la profession.
Déjà, le monde éditorial change, il se globalise, on est ici, voilà, Editis achète tout ça.
Quand j'ai démarré, il n'y avait pas Netflix, vous avez raison.
et bien sûr, l'enjeu des droits audiovisuels est important, les droits étrangers, puis après, il y a un petit problème de pourcentage, en fait. Donc, si vous n'avez pas d'agent, eh bien, l'éditeur prend 50% de tous les droits annexes. Si vous avez un agent, vous récupérez 80%.
Sauf si on a un très très bon contrat, ce qui est mon cas, je raconte les histoires, on a le droit de dire que les droits télé sont pour soi.
Bien
et
sûr.
On peut se les garder et tout dépend des contrats. On ne va pas trop
rentrer dans le détail,
mais on peut expliquer ça. Comment vous êtes devenu agent littéraire?
Écoutez, moi j'ai été dans l'édition, j'étais chez Flammarion pendant 17 ans, je m'occupais de littérature étrangère chez Flammarion, donc d'auteurs comme Jim Harrison, Doris Lessing, tout ça, qui avaient des agents littéraires. Et nous, je travaillais donc avec eux toute la journée et j'ai décidé il y a 5 ans de passer de l'autre côté, du côté des auteurs, mais en gardant vraiment à cœur de ne pas être contre les éditeurs.
Bien sûr, bah, si on est contre, ça ne marche pas.
Il faut que
ce soit gagnant, gagnant, gagnant.
Tout
entre vous, l'auteur, l'éditeur, quel poulain avez-vous, si j'ose dire? Qui avez-vous dans votre écurie comme auteur?
Alors, moi j'ai souvent des écrivains qui arrivent à l'écriture par la musique, par exemple Mathias Malzieux, Olivia Ruiz, mais j'ai aussi...
La commode au tiroir, de couleur, si je me souviens bien. Elle était venue dans cette émission et Mathias Malzieux aussi était venu dans cette émission.
Tout à fait. J'ai aussi des gens comme Antoine Griezmann, avec qui j'ai fait une série jeunesse, Gaulle.
Il n'a jamais fait Culture Média. La prochaine fois que vous lui parlez, dites-lui qu'on aimerait bien qu'il vienne ici dans l'émission. Je vous dis juste ça.
Pas.
Et Christophe Onodibio aussi.
Tout à fait, Christophe, qui sort pour son prochain livre à la rentrée. Voilà, très peu d'auteurs, mais des auteurs sur lesquels, justement, on peut discuter avec les éditeurs.
Je termine mon instant promo, après je passe à un autre sujet. Christophe Onodibio, qui sera l'invité de Culture Média à la rentrée. Claudia Cohen, pourquoi ce sujet autour des agents littéraires? Qu'est-ce qui en faisait un sujet d'actu pour les pages saumon du journal?
Alors, moi, je couvre le secteur de l'édition pour les pages Chaumont et l'idée, c'était de faire un bilan sur la pandémie. Il s'est passé deux choses pendant la pandémie. Les Français confinés ont eu des envies d'écriture et ont envoyé des milliers de manuscrits aux maisons d'édition.
Ah oui,
des milliers. Pardon,
je me permets de vous interrompre, tout le monde n'a pas de talent. Il ne suffit pas d'être chez soi avec des velléités d'écriture pour que des maisons comme Flammarion, Seuil, Gallimard, Grasset ou Calman-Lévy vous signent.
Oui, mais vous pouvez rêver. Vous pouvez envoyer votre manuscrit en me disant que vous avez du talent.
Oui, voilà. Mais ce n'est pas ces gens-là que les agents vont essayer de chapeauter.
Non, mais il y a eu quand même un afflux de manuscrits dans les maisons d'édition et les maisons qui en sont venues à refuser des manuscrits, à faire des posts publics en disant « nous recevons trop de manuscrits, bien arrêtez sûr. De nous en envoyer ». Les agents en ont récupéré quand même quelques-uns. Ah oui. Et quand vous êtes auteur, quand vous essayez d'être publié que votre manuscrit est refusé dans une maison d'édition, vous dites bah, « en fait, il y a des agents, donc on peut très bien aussi essayer par ce biais ». Donc il y a eu ça, et il y a eu aussi le fait que les producteurs confinés chez eux ont beaucoup plus lu qu'avant et ont eu plus d'envie d'adaptation littéraire, se sont tournés à la fois vers les maisons d'édition et vers les agents. Donc l'idée, c'était de voir, il y a eu ces phénomènes, est-ce que ces phénomènes se traduisent en chiffres ? Et en appelant le syndicat, ils m'ont effectivement communiqué le fait qu'on était sur une cinquantaine d'agents aujourd'hui, ce qui représentait le double du nombre d'agents par rapport à quelques années.
Claudia Cohen, vous avez interrogé pour ce portrait de nombreux agents, dont le pionnier, peut-être le plus connu d'entre eux, quoiqu'il soit extrêmement secret, François Samuelson, qui est notamment l'agent de Houellebecq ou de Virginie Despentes. Il vous dit « j'ai connu une époque où les éditeurs refusaient de lire des manuscrits envoyés par des agents, époque révolue où ça existe encore ?»
Ça existe encore, mais de façon très marginale. Donc on va dire époque révolue, mais il faut savoir que la tradition française est très différente des marchés anglo-saxons où il y a une relation très directe entre l'auteur et l'éditeur. Donc c'est assez spontané en fait pour un auteur d'envoyer son manuscrit à l'éditeur. Or, si vous regardez ce qui se passe en Angleterre ou aux États-Unis, vous ne pouvez pas envoyer un manuscrit à une maison d'édition sans passer par un agent. Donc au départ, les maisons se disaient mais pourquoi en fait ? Pourquoi lire des manuscrits envoyés par les agents alors que moi, j'en reçois plein ?
Question à tous les deux, cette profession, c'est une institution en Angleterre, aux États-Unis, en tout cas dans les pays anglo-saxons. Quelles sont les différences entre les marchés de l'édition anglo-saxon et français ? J'allais dire, est-ce qu'il y a une différence ontologique, rien que de, peut-être même dans la façon dont le livre est vendu ?
D'abord, le prix fixe en France, c'est quand même la majeure différence chez les anglo-saxons. Vous allez chez Tesco, vous dans un autre supermarché, vous allez chez Barnes & Noble, vous allez dans une librairie, c'est pas le même prix.
Mais ça change quoi pour le métier de l'édition ? Il y a quelque chose qui change peut-être le métier de l'édition, c'est qu'un livre, je vais expliquer comment ça marche, quand un libraire vous achète un livre, il paye déjà le livre. Et si le livre ne se vend pas, il revient, ce qu'on appelle les retours. Alors que quand un supermarché vous achète un paquet de Pépito, tant que le paquet n'est pas vendu, il ne touche pas l'argent. Et ça change complètement, c'est pour ça qu'il y a cette inflation, on peut s'en plaindre, mais c'est aussi formidable, de 650 ou 700 romans à la rentrée. Qu'est-ce que ça change pour votre métier, pour le sujet qui nous intéresse ?
Et ce que ça change, c'est qu'il faut faire le tri aussi dans tout ça. Je ne sais pas très bien où... ça change plein de conditions. Peut-être, Claudia, toi, tu as une vision plus globale.
Vous voulez dire en termes économiques ?
Bien sûr. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas besoin d'agent, puisqu'il suffisait de proposer un livre à un éditeur pour qu'il le publie. On s'est souvent plaint qu'il y ait trop de livres publiés en France.
Oui, mais je pense que l'argument économique est lié, encore une fois, à l'argument culturel. C'est juste que ce n'est pas naturel d'envoyer des romans à des éditeurs. Les marchands anglo-saxons se sont toujours reposés sur les agents, alors qu'en France, ça n'a pas été le cas.
Il y a un pionnier français, c'est Marc Lévy. Il a été l'un des premiers écrivains français à faire appel à un agent littéraire, Susan Ali. On était en 97. Il a raconté sa rencontre avec cette ancienne éditrice. C'était sur Europe 1, c'était au micro d'Isabelle Morizet. C'était dans « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». Je le rappelle, il raconte cette rencontre qui remonte à 97.
Susanna, c'est une rencontre qui se fait il y a 20 ans, maintenant bientôt, enfin 19 ans, dans le bureau de Bernard Barrault. Elle est à l'époque directrice des droits étrangers chez Robert Laffont.
Ouais, oui.
Et c'est elle la première qui vient me voir et qui prend mon manuscrit et qui, avec son petit accent anglais, me dit « Je pense que ça va faire un film et je vais aller vendre les droits à Francfort. » Bon, moi, je lui dis « Non, surtout pas, parce que là, je veux pas cette pudeur dont... » Et elle me rappelle 15 jours après, toujours avec son petit accent...
Le livre n'était pas encore publié.
Non. Et elle me rappelle 15 jours après, toujours avec son petit accent de très Jane Birkin, et elle me dit « Vous n'allez pas être très content, mais il y a Spielberg qui veut vous parler. » Je ne sais pas si vous voyez la phrase, l'anachronisme de la phrase. Bon, elle va quitter les éditions Robert Laffont pour devenir un agent littéraire.
Francfort, je précise, c'est une très grande foire professionnelle du livre. Olivier de Dieuleveux, comment se passe une négociation justement pour les droits d'adaptation d'une œuvre ? Vers qui vous vous tournez en premier ? Les éditeurs, les diffuseurs, les maisons de production, comment ça se passe et dans quel ordre ?
Alors, en général, moi, avec mes auteurs, je garde les droits audiovisuels, donc je me tourne d'abord vers les producteurs. Typiquement pour la commode au tiroir de couleur d'Olivia
Ruiz,
eh bien, il y avait beaucoup de producteurs qui voulaient l'adapter. Et donc, il y avait des demandes d'Olivia qui étaient bien précises. Et puis, le livre se prêtait plus à une série qu'à un film. Et donc, on est parti sur ce sujet-là. C'est en général les producteurs qui vont avec les diffuseurs. Et ensuite, là, on en informe l'éditeur, mais tout ça est une latesse, c'est une joyeuse famille. On travaille tous ensemble dans le même but.
Et alors, puisque vous la citez, qu'est-ce que ça va devenir? Ça va être une série et... Où est-ce que vous en êtes alors sur ce projet-là avec Olivia Ruiz?
Alors, bah écoutez, ça a été acheté par Pathé qui a créé un département série pour l'occasion avec Estrella Productions, Stéphanie Carras-Li Pujot, et ce sera une coproduction internationale. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais ça va être très très chouette.
Ça sera franco-espagnol?
Je ne peux pas dire.
Parce que, ayant lu le livre, je me souviens que ça se passe beaucoup avec les projecteurs braqués sur l'Espagne. Vous restez avec nous, Claudia Cohen, Olivia de Dieuleveux. On continue de parler des agents dans Culture Média sur Europe 1. A tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
On parle de l'irruption des agents littéraires dans le marché français. Leur nombre a doublé en 5 ans. Ils font le lien entre les auteurs, entre les chaînes de télévision, entre les producteurs, entre les plateformes. Nous sommes avec Olivia de Dieuleveux qui est agent littéraire et Claudia Cohen qui a signé une enquête passionnante dans Le Figaro. Et la question que les gens se posent, c'est: j'ai écrit un livre, je ne connais personne dans le monde de l'édition, il n'est pas prouvé que j'ai du talent, dois-je d'abord, prendre un agent littéraire?
Alors d'abord, je vais rebondir, Philippe, sur ce que tu viens de dire.
Ce que vous venez de dire. On se tutoie, on se voit.
On se voit, pardon. On se voit. Le mot talent est très intéressant et ça montre la différence de mentalité entre la France et les pays anglo-saxons. En France, on part du principe où un écrivain est comme un artiste, a un talent qui est inné. Mmh. C'est-à-dire tout le monde ne peut pas être écrivain, ça ne s'apprend pas. Alors que en Angleterre, aux États-Unis, vous avez des gens qui ont du talent, vous avez aussi ceux qui souhaitent devenir auteur. Vous avez un tas d'ateliers d'écriture où on vous apprend des ficelles qui marchent ou qui ne marchent pas pour être écrivain. Et ce qu'on voit, et je pense qu'il est un peu en lien avec aussi le développement des agents littéraire, ça va être le développement des ateliers d'écriture qui se développent aussi beaucoup en France. Vous avez Editis, pour ne pas citer le groupe, qui a lancé il y a quelques jours son premier atelier d'écriture public. Mmh.
Donc, vous avez raison, on a l'impression qu'en France, le talent littéraire, ça vous tombe dessus comme le doigt de Dieu, alors ça ne gêne personne d'apprendre le cinéma à la Fémis ou autrefois à l'IDEC.
Non, les mentalités sont très différentes.
Olivia de Dieuleveux, je me tourne vers vous. Quand un livre est adapté en télé ou au cinéma, quel est l'impact sur les chiffres de vente du livre? Est-ce que ça a un impact ou est-ce que cela n'a rien à voir?
Je vais faire une réponse de Normand, ça dépend. Voilà, si je cite Game of Thrones, le Trône de Fer était publié depuis 20 ans chez Pygmalion en France et vendait à peu près 4000 exemplaires et 1000 par an. Game of Thrones sort, ils sont au million d'exemplaires. Pour cet exemple-là, il y a autant de contre-exemples. Souvent, le dernier en date, c'est les Chroniques de Bridgerton chez Netflix et du coup, qui a été un carton absolu chez J'ai lu. Voilà.
Claudia Cohen, est-ce qu'il y a une rivalité entre les agents et les éditeurs de ce que vous avez compris au soir de votre enquête?
Oui, clairement. Pour être très honnête, ce que j'ai mis aussi dans le papier, c'est qu'aucun éditeur avec qui je suis en contact régulièrement parce que je couvre le secteur de l'édition pour Le Figaro n'a souhaité répondre en on, donc officiellement, n'a souhaité apparaître dans le papier.
J'ai vu ça, c'est très frappant.
Il y a des tensions et si vous regardez les revues spécialisées autour du livre, vous avez tous les quatre matins des titres sur... des rivalités entre le SNE, qui est le syndicat des auteurs, avec certains éditeurs. Parce qu'il y a toujours cette question sur les négociations. Et effectivement, si jamais un des arguments de l'agent, c'est de dire à un auteur « je vais défendre votre disons, pouvoir d'achat et votre pouvoir financier face aux éditeurs, forcément, il y a toujours... Il y a toujours cette rivalité qui s'est quand même beaucoup assainie, mais il y a encore un sujet, oui.
Alors Olivia de Dieuleveux, quand on pense au métier d'agent, on pense évidemment à la série 10% de France 2.
Ça vous fait sourire, 10% c'est le pourcentage que touche l'agent sur le cachet de son artiste, comédien, comédienne. Dans votre enquête, Claudia Cohen, François Samuelson vous explique que l'éditeur touche 50% de commission et devient propriétaire des droits. Les agents laissent pour leur part la propriété à l'auteur et touchent une commission entre 10 et 20% sur les droits de production. C'est le bon chiffre, Olivia de Dieuleveux ?
Oui, on est en moyenne à 15% parce que les chiffres ne sont pas les mêmes que pour l'audiovisuel.
Il faut expliquer 15% de ce que touche l'auteur. Non pas 15% du prix du livre. Non. Parce que l'auteur lui-même touche parfois 15% du prix du livre. Et ça peut aller de 8% jusqu'à 20% pour les très très gros noms.
Exactement. Et l'agent est payé par l'auteur. Ce n'est pas l'éditeur qui paye l'agent. Donc il faut aussi que l'auteur puisse se permettre de prendre un agent.
Et est-ce que la friction ne vient pas au moment où l'auteur dit à son éditeur « Je veux un pourcentage plus grand parce que maintenant j'ai un agent ». Je sens que j'ai posé la bonne question. je sens que c'est le bon endroit.
Là, il y a une double friction parce que l'éditeur, lui, se dit « Ah, il y a un agent, donc ça veut dire que sur les droits secondaires, il va devoir reculer. Et bien sûr, l'agent, il est payé à la commission. Donc, il est payé... Il touchera plus s'il rapporte plus.
L'agent n'est pas payé à la commission, l'agent est payé au pourcentage.
Au pourcentage, oui, d'accord. Mais c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que du coup, en général, quand un agent rentre dans la boucle, c'est pour faire une négociation mieux pour l'auteur, moins bien pour l'éditeur. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, le travail d'agent, ce n'est pas que ça. C'est vraiment aussi...
Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la mise en place, il y a aussi la visibilité de vos talents, comme on dit. Est-ce que vous en occupez, est-ce que vous vous intéressez aussi à leur place dans les médias, par exemple, ou est-ce que vous laissez ce travail aux attachés de presse ?
Évidemment, on travaille. Moi, je suis de concert avec l'éditeur, hein, mais l'idée, c'est le meilleur livre possible, d'abord. Donc, meilleur texte possible. On travaille en amont, chez le meilleur éditeur possible. Les ADN des éditeurs sont différents. Dans les meilleures conditions possibles et avec le plus grand rayonnement possible. Et donc, du coup, en effet, regarder les plans marketing, regarder les plans médias, accompagner tout ça. Et moi, comme j'étais de l'intérieur chez un éditeur avant,
Je voudrais faire réagir à une information qui est arrivée hier. Le journaliste François Bunel a annoncé hier dans une interview au Parisien qu'il arrêtait la présentation de la Grande Librairie sur France 5. Réaction ?
Ah, c'est triste. Voilà. Mais c'est pour faire des belles choses. Il reste producteur et il a énormément. Il vient de faire un magnifique documentaire sur Jim Harrison. Je suis bonne que ça lui a donné d'autres envies dans ces domaines-là et ce serait bien.
Le mot de la fin, j'allais vous le donner.
Le mot de la fin, il faut relativiser la situation. Et comme tout métier d'intermédiaire, le métier d'agent peut être compliqué. Et pourra-t-on voir dans les prochaines années un développement du marché français comme celui des marchés anglo-saxons ? L'avenir nous le dira.
Le mot de la fin a été signé Claudia Cohen. Votre enquête « Les agents littéraires bousculent l'édition », c'est à lire sur le site du Figaro. Merci aussi d'avoir été avec nous, Olivia de Dieuleveux. Je rappelle que vous êtes agent et on va retrouver l'une de vos auteurs mardi dans Culture Média. Il s'agit d'Olivia Ruiz. Dans un instant, alors là, les droits, ils sont amortis depuis très 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 longtemps. Les Liaisons Dangereuses, Chauderlos de Laclos, 1782. Il revient sur Netflix en version 2.0. C'est réalisé par Rachel Suissa. Elle sera avec nous dans ce studio. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Rachel Suissa.
Bonjour.
Vous êtes comédienne, vous êtes réalisatrice. C'est votre première radio.
Absolument.
Merci d'avoir choisi Culture Média pour la première radio de votre vie. On vous a vu dans plusieurs fictions comme Mesrine ou La vérité si je mens 3. Vous êtes passé ensuite de l'autre côté de la caméra. Vous aviez écrit, co-réalisé une série qu'on a vue sur Dailymotion, presque célèbre. Aussi un one-man show au titre évocateur Maman je t'aime, PS lâche-moi, j'aime beaucoup. Votre actu, c'est ce film Les Liaisons Dangereuses. Ce sera à voir sur Netflix à partir du 8 juillet. Alors je rappelle, Les Liaisons Dangereuses, chef-d'œuvre de la littérature sortie en 1782, signé Chauderlos de Laclos. C'est une histoire libertine entre le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil, avec une cible, Madame de Tourvel, qui est mariée. Alors qu'avant qu'on raconte ce que vous avez fait pour cette adaptation, pour l'adapter au XXIe siècle, d'abord, pourquoi ce roman vous a intéressé ? Ce sont les producteurs, vos producteurs, qui vous ont proposé de le filmer. Pourquoi avez-vous dit oui ?
Alors,
Tout d'abord parce qu'ils ont estimé que j'étais la bonne personne pour l'adapter. Donc ça m'a tout de suite mis en confiance parce que voilà, c'est un chef-d'œuvre de la littérature. Je me suis dit, waouh, ça n'a pas été, ça a pas été adapté en France en long métrage depuis 1960.
Mais ce que je veux dire, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette histoire ?
C'est les thèmes. C'est-à-dire, en fait, les thèmes que. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est qu'on parle de thèmes qui sont universels, intemporels. C'est-à-dire, Schoenherrlose de Laclos était général de guerre féministe et en même temps, il traitait de ces. Enfin, la manipulation, le narcissisme, l'image qu'on renvoie aux autres, ce qui se passe derrière les portes fermées, l'amour et la trahison. En fait, c'est des choses en fait qui méritent d'être remises au goût du jour parce que et en s'adressant à la génération Z parce que c'est intemporel en fait et ça s'applique au jour d'aujourd'hui.
On va entendre la bande annonce.
C'est qui elle ?
Une Parisienne. Elle vient de rentrer à Hugo cette année. Je peux te faire visite si tu veux.
J'ai quelqu'un et je suis très fidèle là-haut. Là.
C'est l'aristocratie basse, certifié inséparable.
Attends, ils sont ensemble ?
Oh wow, let's talk. Tout en haut de la pyramide, King Badiola et Queen Merteuil. Les influenceurs comme Naya et Ariel. T'as la case Bouffon du Roi et de la Reine. Et tout en bas, t'as les paysans.
Sinon, on a le droit d'être potes sur Insta ou ça va saouler ton mec ? On dit demain 14h sur la grande plage.
Même pas en rêve. Carrément, on se marie dans un an.
Mais pourquoi ?
Tu crois pas en l'amour absolu, toi ?
Je me suis pas posé la question. Quoi ?
C'est juste que tu me surprends et... peu de gens me surprennent.
Ça reste entre nous, mais méfie-toi, Tristan.
J'arrive pas à savoir si t'es un mec bien qui traîne avec des cons ou si t'es juste un con qui fait semblant d'être un mec bien.
Aujourd'hui, le pouvoir, c'est la fame.
Y'a pas de gloire sans amour. On choisit pas qui on est, ni qui on aime.
Bonne question, Rachel Suissa. Que racontent vos liaisons dangereuses ?
Alors, donc moi, dans mes liaisons dangereuses, j'ai transposé l'élite, l'aristocratie dans la célébrité au plus jeune âge.
Voilà. Mais d'abord, qui sont les personnages ?
Les personnages sont alors Célène, donc qui est notre
c'est l'héroïne, c'est la cible.
C'est l'héroïne. En réalité, c'est la cible. C'est-à-dire, voilà, on renverse un peu les points de vue. Donc, Célène a 17 ans. Elle croit très très fort en l'amour absolu. Elle croit très fort en son sens de la morale. Elle a une notion très claire du bien et
mais
du mal.
Mais d'abord, il faut raconter. Elle passe le bac, elle déménage.
Alors,
elle je veux vous raconter l'histoire en quelques mots.
Okay.
Parce
donc
que sinon, avant de savoir ce qu'elle pense, déjà ce qu'elle fait.
Elle quitte Paris suite au décès de sa mère et à la dépression de son père. Elle est parachutée à Biarritz, dans une ville qu'elle ne connaît pas, dans un monde qu'elle ne connaît pas. Elle va découvrir l'élite. La jeunesse dorée basque, elle va être parachutée dans un nouveau lycée, le lycée Victor Hugo, et elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Tristan. Elle ne sait pas à quel point ce garçon est connu. Il a l'air d'être un mec bien. Ouais. Et donc,
déjà, c'est un surfeur, ça commence bien.
C'est un surfeur
bien gaulé qui sauve son chien.
Exactement, champion de surf de France quand même. Voilà. Donc, voilà. Et en fait, elle ne se rend pas compte qu'il est super connu parce qu'elle est complètement déconnectée des réseaux sociaux. Elle
Mais
vit
aussi,
beaucoup dans
couple.
Ses livres. Eh ben, elle ne s'en rend pas compte non plus au début.
Oui, mais il faut raconter parce que notre sujet, c'est les liaisons dangereuses. Et donc, il y a un couple, Valmont-Merteuil.
Absolument.
Et là, il y a un couple. Le surfeur, il est en couple.
Il est en couple avec Vanessa Merteuil, qui est donc une enfant star. Donc, elle a tout vu, tout connu. De 6 à 12 ans, en fait, elle a vécu les meilleures années de sa vie.
Ouais.
Donc, à 18 ans, elle est déjà pratiquement à la retraite et cherche à se... Voilà, refaire la petite Sophie 4, en fait. Mmh. C'est la trilogie pour laquelle elle est connue. Et donc, en fait, il ne sait pas. Elle ne sait pas qu'il est en couple, mais a priori, il n'y a pas trop de soucis, puisque elle aussi est en couple et fidèle. Et voilà, elle veut un homme pour toute sa vie, donc il n'y a pas de soucis. Elle décide d'être amie avec lui, parce qu'en 2022, c'est OK d'être amie, même si on est en couple. Et en fait, pendant tout le film, on ne sait pas si ce garçon est un mec bien, en fait, mais qui traîne trop avec des cons, ou si c'est un con qui fait semblant d'être un mec bien. En fait, c'est tout le truc. Et en fait, voilà, et au final, en fait, elle va tomber amoureuse de ce garçon. Elle va découvrir son désir.
Racontez pas tout.
D'accord.
On peut s'arrêter là.
D'accord.
Vous dites avoir voulu faire entrer ce classique de la littérature dans une ère plus contemporaine, où les réseaux sociaux, l'amour et le langage très cru cohabitent, un peu dépoussiéré. Je voudrais qu'on entende un extrait. On est loin des sous-entendus, des phrases à rallonge et des subjonctifs de Laclos, la scène se passe dans une fête entre les deux prétendants.
C'est qui elle ?
Une Parisienne. Elle vient de rentrer à Hugo cette année.
Et tu l'invites chez toi? Tu veux quoi? Tu veux te la taper dans le garage?
Pour info, la meuf est hyper fidèle. Elle est fiancée, elle croit l'amour absolu. Elle a des putains de valeurs qu'elle trahira jamais. Donc non, je comptais pas me la taper dans le garage. Par contre, je vais refaire mon challenge personnel. Je vais l'aider à oublier toutes ces conneries d'amour absolu, mariage, fidélité. Et si je suis très fort, je vais lui retourner le cerveau à tel point que ce sera elle qui me suppliera de coucher avec moi.
Je vais jouer. Un, tu couches, deux, tu jettes. Tu perds, je gagne ta petite maison de plage à Guétaridil.
Non, je fais ça en solo. Je veux dire, tu m'as déjà passé ta caisse, je vois pas comment tu peux challenger ça.
Je t'offre un avenant au contrat.
Sois plus précis, s'il te plaît.
2 à 3 heures de préliminaire, pipe incluse et un forfait baise renouvelable devant derrière. C'est assez précis?
Oui, c'est assez précis.
C'est le couple de base, Tristan et Vanessa, qui sont en train de faire un deal sur la personne de votre héroïne. 2 à 3 heures de préliminaire, pipe incluse, forfait baise renouvelable devant, derrière. Le mot qui est dans tous les articles, c'est dépoussiéré. c'était poussiéreux, les liaisons dangereuses?
Non, c'était les liaisons dangereuses. Enfin, c'est pas pour rien que ça a inspiré tous ces cinéastes en fait depuis toutes ces années. Je veux dire, c'est un chef-d'œuvre. Mais en fait, le fond, dans les liaisons dangereuses, ils avaient déjà eu une relation Valmont et Merteuil. Et puis depuis des années, en fait, Valmont essayait de la reconquérir. J'ai transposé dans l'adolescence où on est encore en recherche de l'amour, où on est encore au début de sa vie, où on est entre l'enfance. Enfin, on n'est plus des enfants, mais on n'est plus non plus à l'âge adulte. Donc, c'était un petit peu compliqué de se dire qu'il y a quelques années, ils avaient eu quelque chose. Mais donc, pour moi, voilà, c'est effectivement ce qui se cache derrière les lettres d'époque, c'est à peu près ça, en fait.
Et puis, on n'a pas parlé de la nouvelle aristocratie que vous avez située dans l'échelle du nombre de followers des réseaux sociaux. On parle des liaisons dangereuses sur Netflix. Rachel Suissa est notre invitée. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Avec Rachel Suissa, c'est sa première réalisation pour Netflix. Elle revisite les liaisons dangereuses. Ce sera à voir sur la plateforme à partir du 8 juillet. C'est évidemment une réécriture du chef-d'œuvre de 1782. Vous dites que vous êtes parti de votre propre histoire pour écrire l'histoire de Célène.
Oui, Serge, je me suis accordé la... Oui, je me suis dit, voilà, j'ai mis beaucoup de moi dans le film. J'ai adapté le classique, mais je me suis, voilà, moi-même, j'ai déménagé à Biarritz, en fait, moi-même. Je me suis retrouvée parachutée dans un monde que je ne connaissais pas. Moi-même, j'ai perdu mon chien. Je me suis dit, bah voilà, on va partir de ta propre expérience.
Vous avez vécu ce qu'a vécu Célène, en quelque sorte.
Oui, c'est-à-dire le fait de se retrouver fish out of water dans un monde qu'on ne connaît pas, voilà, quand on a vécu toute sa vie à Paris. Et une culture qu'on ne connaît pas, parce que Biarritz, ça, c'est aussi une autre culture, la culture basque profonde. C'est aussi il y a aussi l'aristocratie basque, c'est pour ça que je trouvais que c'était formidable, en fait, comme tout se goupillait.
Et est-ce que vous avez été l'objet de paris amoureux?
Non, mais j'ai perdu mon chien, tout comme Célène. Donc,
j'ai bien compris. Mais moi, je faisais référence au chef-d'œuvre du 18e. Oui. Célène, votre personnage est immergé malgré elle dans ce monde où les statuts de la haute société ont été remplacés par les statuts sur les réseaux sociaux. La toute première séquence du film montre bien la mentalité de ces jeunes gens.
Tu serais prêt à quoi pour te faire connaître? Faire partie de l'élite. L'élite, il y a 200 ans, c'était avoir le sang bleu. L'aristocratie. Il y a 20 ans, c'était être pété de thunes. Aujourd'hui, avoir un titre ou de la thune t'empêchera pas d'être un loser. Aujourd'hui, le pouvoir, c'est la fame. Quand tu y goûtes, t'es prêt à tout pour la garder. Quitte à en crever.
À propos de la fame, pourquoi vous avez choisi Paola Locatelli pour incarner Célène? Parce que elle, la fame, elle l'a.
Absolument, mais moi, je ne la connaissais pas.
Ah bon, alors je vais dire à nos auditeurs, elle cumule 3 millions en tout d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est une influenceuse, une créatrice de contenu, comme on dit maintenant, très très suivie. 3 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, dont 1,8 million sur Instagram. Vous ne la connaissiez pas?
Je ne la connaissais pas parce que, en fait, moi, un de mes gros challenges quand j'ai écrit le film, c'était donc de déjà de me créer un compte Instagram. Mmh. C'est-à-dire, j'appelais ça... Amstramgram, j'étais, mmh. j'étais vraiment, moi aussi, j'étais dans ma bulle, en fait.
Oui, hein. mais vous saviez quand
et
même.
Donc, et j'ai parlé avec pas mal de jeunes, en fait. Mmh. Moi, j'ai fait la sortie des lycées, on a beaucoup parlé. J'ai demandé quels étaient les comédiens et comédiennes, ou alors les personnes voilà, qui étaient pour eux des références et tout mmh. ça. Et donc, son nom est venu avec plein d'autres noms. On a vu à peu près 150 personnes en casting. Et en fait, moi, j'avais mis toutes mes notes sur mon téléphone, et je disais à mon directeur de casting, je disais, il faut que tu vois aussi celle-là, et je voudrais bien voir celle-là. Et en fait, à un moment donné, je dis, ah tiens, Paola, je vais sur les réseaux, puisque enfin, je m'étais créé un compte. Mmh. Et là, je vois une photo d'une fille sublime. Elle était blonde et maquillée. Elle était très... elle faisait très, très mûre sur la photo, mmh. et très mature. Et je me suis dit, waouh, elle doit avoir... je pense 23-24 ans, mais elle peut faire plus jeune. Mmh. Et là, je scroll, je vais un peu plus bas et je fais, oh, je vois une fille en train de croquer dans un muffin.
Ouais. Vous savez comment elle s'est fait connaître ?
Oui, elle m'a dit.
Alors,
après
racontez-le.
Quoi, elle m'a dit. En mangeant, enfin, elle a dit, en fait, elle a fait une vidéo. En fait, bon, à la base, elle avait créé une petite chaîne YouTube parce qu'elle aimait bien les. Ouais, elle a créé un jour.
Essayez de raconter un peu rapidement parce que vous
d'accord,
savez que l'heure tourne.
D'accord. Donc,
bon,
en
je vais le dire. Elle a fait une vidéo, elle avait 12 ans, c'était sur YouTube. Elle racontait 15 faits chelous sur moi et elle racontait manger ses ongles de pied. La vidéo a fait 8 millions de vues.
Et c'était faux. C'était faux. C'était, voilà. Elle a fait ça pour rigoler, voilà, un soir.
Dans une interview, Rachel Suissa, vous dites vouloir lutter contre le phénomène des cases auxquelles on échappe difficilement dans ce métier. Je vous citais, vous dites le premier rôle toujours réservé à la belle ingénue qui fait du 36, le rôle de la bonne copine réservé à la petite grosse sympa mais qui fait rire. Et quand même, dans Les Liaisons dangereuses, le premier rôle, c'est une belle ingénue qui fait du 36.
Oui, mais
et il y a la copine boulotte mais qui est sympa autour. Vous avez refait le cliché que vous dénonciez.
Qui est boulotte ? C'est qui la copine boulotte ?
Vous verrez ça sur Netflix le 8.
Non, elle est pas.
Vous verrez ça
la cousine ? C'est une bombe.
Vous verrez le. Vous allez comprendre.
Non, pour
en
moi.
En tout cas, il y a la belle ingénue qui fait du 36.
Et l'influenceuse Naya, qui ne fait pas du 36 et qui, pour moi, est la diva. En fait, moi, je me suis dit, voilà, moi, à l'époque, moi, j'allais au lycée. Si les réseaux sociaux existaient, s'il y avait Instagram, je sais que, par exemple, un personnage comme celui de Naya et Ariel, en fait, qui sont deux personnages complètement atypiques, n'auraient jamais été des influenceuses. Et là, en fait, c'est dans ma pyramide néo-féodale, c'est les duchesses, en fait.
Les Liaisons dangereuses, c'était un film en 88 avec Glenn Close. Vous l'avez revu, au contraire, vous êtes interdite de le revoir.
C'est un film que je connaissais très bien parce que je l'avais adoré. Donc du coup, je le connaissais. Mmh. Par contre, je me suis complètement interdit de regarder Cruel Intentions.
Voilà.
Qui était le film, qui était Les Liaisons dangereuses de ma génération. Ça, je ne l'ai vu qu'après avoir... écrit voilà, ma version à moi.
C'était en 99, Cruel Intention. Je dois dire aussi qu'il y a un roman qui va sortir. Vous avez travaillé à la novelisation du roman Liaisons dangereuses, co-écrit avec Wendy Thévenin. Ça va sortir en librairie. Et donc, le film Les Liaisons dangereuses sur Netflix à partir du 8 juillet. Merci d'avoir été avec nous dans Culture Média pour votre première. Culture Média.
Merci à vous.
Continue après les infos de 10h, les télescopages de Bruno Donnet. Il a entendu Fabien Roussel hier matin à la radio et il est très, très, très inquiet pour lui. Il pense que le leader communiste est atteint de la maladie d'Alzheimer. Vous allez comprendre. Notre invité, c'est le dessinateur et scénariste Christophe Blain. Avec lui, on va parler de cette BD phénomène, la BD la plus vendue de l'année. Alors que franchement, le sujet, on aurait peu parié dessus. Le réchauffement climatique, c'est d'une intelligence prodigieuse. Ça s'appelle Le Monde sans fin. C'est co-signé par Jean-Marc Jancovici. Puis dans Les Indispensables, Gastronomie et Bulles avec Laurent Mariotte. Et puis Olivier Benkemoun qui nous ramène en 98 pendant le chaotique Tour de France miné par des scandales de dopage à l'insu de son plein gré. L'imitateur et humoriste Marc-Antoine Lebray en fin d'émission. A tout de suite sur Europe 1.